Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs fiertés, leurs astuces, pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston et pendant 7 jours, plus de 300 animatrices et animateurs de podcasts se mobilisent pour mettre en lumière le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que Elle en Bretagne y participe. C'est dans ce contexte que j'ai le plaisir de recevoir Christelle Bonny, une femme entrepreneure et militante, fondatrice et présidente de la Sextech for Good et cofondatrice de la Femtech France. Certifiée en sexothérapie, Christelle propose des conférences et des masterclass sur le sexpowerment, considérant la sexualité comme un levier d'épanouissement. Dans cet épisode, nous allons explorer avec Christelle son parcours très inspirant et aussi ses réflexions sur ce sujet d'humanité. Bonjour Christelle, je suis ravie de te recevoir à nouveau dans mon podcast car nous l'avons déjà réalisé un épisode en septembre 2021, soit il y a 2 ans et demi déjà.
Oh, ça passe vite. Oui. Bonjour Marie-Cécile.
Alors, comment vas-tu aujourd'hui ?
Eh bien, parfaitement bien. Je suis ravie de te retrouver.
Eh bien, moi, je suis ravie aussi de refaire cet épisode avec toi. Et aujourd'hui, comment te présenterais-tu ?
Oui, je pense que tu avais les bons mots. Je reste une entrepreneure militante. Voilà, je fais toujours plein de choses, mais toujours engagée et sur ces sujets-là, tu l'as dit, de sexualité positive, d'égalité homme-femme notamment, et d'innovation voilà, dans tous les domaines de la sexualité. Et tu l'as très bien dit, c'est de l'humanité, on va en parler.
Comme je l'ai dit, l'association en fait, que je souhaite mettre en avant dans cet épisode, c'est la Sextech for Good, dont tu es présidente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en quoi cela consiste ?
Sextech for Good, c'est un collectif et une association qui est née en 2018, juste après mon parcours entrepreneurial qui avait fait que j'avais découvert et mis les pieds dans la sextech, et qui en fait fédère des entrepreneurs qui innovent dans tous les domaines de la sexualité. Donc ça veut dire quoi ? Le plaisir, évidemment, on y pense tout de suite, mais aussi l'éducation à la sexualité, la santé sexuelle et la santé intime, parce que voilà, c'est extrêmement important. Et on va rappeler que selon la définition de l'OMS, la santé sexuelle fait bien partie de la santé globale, et qu'avoir des problèmes dans sa sexualité, on le dit peut-être pas assez souvent, outre des aspects physiques et de douleur, ça peut aussi conduire à des problèmes de santé mentale, et donc c'est pas à sous-estimer.
Tout à fait. D'ailleurs, tu parles même de sex powerment.
Oui, parce que souvent, notamment chez les femmes, c'est une source d'énergie positive, d'assertivité, de confiance, d'estime qu'on nous a un petit peu confisquée. Donc, on est en train de se réapproprier, notamment depuis MeToo, où on a repris la main sur cette question du plaisir, de revendiquer qu'on est les femmes sont des sujets autonomes aussi dans le domaine de la sexualité et du plaisir. Mais voilà, on y a encore un petit peu de boulot à faire dans ce domaine.
Alors, c'est-à-dire, parce que je crois qu'on a aussi un héritage par rapport à ça.
On milite pour la sexualité positive et via Sextech for Good de passer des messages assez forts sur le fait que l'intime est politique. Et qu'aujourd'hui, même des femmes qui sont très émancipées ou dans la sphère de l'intime continuent de subir souvent des sexualités ou d'accepter des pratiques parce qu'elles ont peur d'être quittées ou d'être peur d'être trompées. Que de l'autre côté, on a des hommes qui sont aussi embourbés que nous dans cette sexualité hétéronormée, patriarcale, avec des codes et des normes de genre. Et donc, eux, ils ont des injonctions de performance. Voilà, donc être un homme, la virilité, c'est bander fort longtemps. Et donc, ça donne une sexualité héritée de Freud, avec des scripts qui sont encore un tout petit peu de préliminaire. Et est-ce que je suis contre le mot préliminaire ? On en parlera peut-être. Mais pour préparer Madame A à une pénétration qui serait toujours centrale dans la sexualité et un coït qui serait, et de monsieur, parce que le plaisir de madame là-dedans ne comptait pas tellement. Et on voit bien que ça donne des scripts et une sexualité qui finalement est assez monotone et assez pauvre et qu'aujourd'hui on doit la réinventer et qu'on milite pour que la sexualité soit vraiment un lieu de circulation du pouvoir, un lieu d'égalité. La sexualité, ça doit être joyeux, ça doit être fun, ça doit être quelque chose qui nous apporte de l'énergie, c'est de l'énergie vitale, le désir, c'est une étincelle de vie. et on est des êtres désirants. Voilà. Il y a plein de choses, mais tu vois à quel point c'est riche.
Oui, tout à fait. Oui. Puis on voit bien chez toi l'engagement. Et justement, quand tu dis cette notion de performance aussi pour les hommes, où ils ne s'y retrouvent pas forcément non plus, on peut retirer un petit peu cette pression-là, puisqu'il y a un chiffre qui dit que...
Il n'y a que 25% des femmes qui jouissent par la pénétration. Donc, messieurs, soyez conscients de ça. Ça veut dire qu'on a tout un intérêt, et toutes et tous intérêt, à avoir une sexualité plus riche et qui s'éloigne de la pénétration. C'est bon aussi, c'est pas le problème. Mais qu'il faut ralentir, qu'on a des doigts, des mains, des langues, qu'on peut utiliser des sextoys, qu'on peut aussi donner une grande place aux caresses, à la sensualité, à l'érotisme. On peut avoir un imaginaire bien plus riche que ce qu'il est. C'est encore ce fameux script sexuel là, de Freud, donc il faut vraiment s'en affranchir parce que globalement, il nous rend toutes et tous assez malheureux. Mais messieurs, oui, il faut arrêter de se mettre la pression là-dessus. Et d'ailleurs, j'en profite, on en revient peut-être, mais on parlait des jeunes et de la sexualité des seniors. On a fait récemment un webinaire de Sex Tech for Good sur le sujet. Et plutôt que de voir la sexualité des seniors comme un tabou, on devrait vraiment s'en inspirer tout au long de notre vie. C'est-à-dire que les seniors ont compris que ils nous disent que la norme du corps désirable, c'est pas un corps jeune, parce qu'ils disent 71% oui, un corps ridé peut continuer d'être désirable et on continue de désirer jusqu'à la fin de sa vie. Ils nous disent aussi qu'ils prennent le temps, donc ils découvrent le slow sex. Évidemment, à 80 ans, on n'a pas les mêmes érections et on n'a pas la même souplesse qu'à 20 ans ou à 30 ans. C'est pas grave, c'est différent et on s'adapte. Donc, ils découvrent aussi autre chose. Donc, pareil, les caresses, la complicité. Ils misent beaucoup sur la communication et sur le rire. Tous ces enseignements-là, finalement, ils sont quand même à regarder. Et ça devrait nous aider à sortir de ces schémas-là qui font que, en grande partie, et notamment dans les couples, la sexualité devient assez ennuyeuse. Et finalement, ça devient le truc qu'on doit faire, à cocher, parce que ça fait couple. Et quand la sexualité devient comme ça, un peu dans la liste des corvées, en général, c'est pas terrible. Et puis, moins on prend de plaisir, moins on a envie. Et après, on voit bien la spirale. C'est compliqué à rattraper.
Alors que finalement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est source de réjouissance, de joie. Ça ne devrait être que du bon.
Mais bien sûr, et on va rappeler d'ailleurs que derrière le mot sexualité et derrière le mot faire l'amour, chacun peut y mettre sa propre définition. Faire l'amour, c'est pas forcément justement être juste la pénétration, des caresses, l'intimité, dormir tout nu, c'est super important. On a besoin de la proximité du corps de l'autre pour faire ne serait-ce que chimiquement pour fabriquer de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. Donc c'est très important de se faire des câlins puis de pas avoir peur des câlins en se disant ah là, ça y est il me câline donc il a envie de plus. Non, c'est important de sortir de ces schémas-là. Et aussi je pense hyper important de sortir du paradigme justement de dire oh là là non je suis trop fatiguée, j'ai la flemme, on verra ça plus tard, on verra ça ce week-end, on verra ça dans les prochaines vacances. Et non, et plutôt de se dire ouais peut-être on est fatigué, mais quand même peut-être si on se met dans un bon moment, peu importe ce qui se passe et jusqu'où on va. On va être bien, on va être heureux, et oui, ça va nous redonner de l'énergie positive, un élan vital, et que on va recréer et entretenir le lien du couple, et c'est vraiment important, je pense. Et si on est solo, bien sûr, il y a la masturbation.
Voilà. Les sextoys et compagnie.
Mais oui, exactement. C'est la seule sexualité qu'on a tout au long de sa vie, donc il faut en prendre soin.
Complètement, oui. Et par rapport à tout ce que tu viens de dire, là, justement, c'est très précieux pour le couple, finalement. De retrouver une sexualité douce et épanouie, on s'aperçoit que justement, dans ce modèle-là, les jeunes font de moins en moins l'amour.
Oui, on a eu une étude récente et donc on s'est tout de suite alarmé. Il y a eu beaucoup de titres sur les journaux en disant « attention, très anxiogène à l'approche de la Saint-Valentin, évidemment, pour dire « les jeunes, ils font moins l'amour et où va-t-on » et beaucoup d'articles aussi très anxiogènes par rapport à la sextech en disant « un jour, on va tous nous remplacer par des robots et puis on fera plus vraiment l'amour ». Bon, j'ai pas du tout cette vision-là. J'ai le fait que à un moment donné, oui, si même on remplaçait, on se disait « tiens, Cupidon, demain est un robot », et alors, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est l'outil qui compte ou est-ce que c'est la finalité? Les outils et les mauvais comportements, par exemple, dans les applications de dating, les mauvais comportements, ils sont humains. Ils viennent pas ni d'une intelligence artificielle, ni d'un outil. Donc, c'est à nous de faire autrement dans les rencontres, d'avoir plus d'humanité. Les sextoys, c'est pareil. Ce n'est que des outils. Et puis, sur les jeunes, le fait qu'ils disent qu'ils font moins l'amour, ben, c'est une nouvelle tendance aussi, et peut-être qu'on peut l'interpréter sur le fait qu'ils n'ont plus envie d'être dans cette consommation de corps, de cette consommation aussi de dating et de rencontres, et qu'ils ont envie peut-être maintenant de reprendre leur temps et de privilégier le bon sexe à une quantité de sexe. Et je trouve que c'est vraiment intéressant à regarder, et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien, parce qu'effectivement, quand on rencontre des gens via des applis et qu'on consomme des corps, en général, on refait tout le temps la même chose, c'est le même script sexuel, on s'en lasse parce que c'est assez pauvre, alors que quand on prend peut-être le temps de la rencontre, il peut se passer des choses, voilà, peut-être on prend plus de temps de découvrir, forcément on s'ouvre des mondes différents.
Ouais, ça peut être magique aussi.
Mais c'est magique. Alors après, il y a, encore une fois, il ne faut pas stigmatiser, parce qu'il peut y avoir tout à fait des rencontres d'un soir qui sont aussi magiques. Donc, bien sûr, il n'y a absolument pas de jugement de valeur là-dessus. Mais le fait qu'ils s'affranchissent de ce qu'ils voient dans le domaine de la pornographie et qu'ils se sentent de moins en moins obligés de répondre à cette pression dont on a parlé, de faire des choses, de rentrer dans la sexualité, d'essayer toutes les pratiques et de consommer beaucoup, je trouve que peut-être c'est une maturité. On voit les applications de dating, elles perdent des abonnés, on a une fatigue, on a une espèce de burn-out, et donc c'est peut-être bien, on va peut-être s'intéresser maintenant à une autre sexualité plus riche, à des rencontres qui sont un peu différentes, peut-être qu'on va découvrir un peu ce que c'est que l'amour compagnon, et je trouve ça chouette, parce qu'on a vraiment, encore une fois, c'est l'objet de Sex Tech for Good, on en parlait tout à l'heure, on a besoin de réinventer nos sexualités, et on a besoin de réinventer l'amour.
Alors déjà, quand on dit ils font moins l'amour, en fait, finalement, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est cette fameuse pénétration? Et puis peut-être qu'en 2030, on fera l'amour différemment.
Mais exactement, on fait déjà l'amour différemment. Toutes les évolutions, depuis qu'on a de la contraception aussi, on fait l'amour différemment. Depuis qu'on a moins peur d'avoir des grossesses non désirées aussi. Depuis MeToo, je pense qu'on fait aussi l'amour différemment, parce que les femmes se sentent beaucoup plus libres aussi de dire non et de poser des limites, de refuser des pratiques, et sans doute aussi beaucoup plus de demander des choses dont elles avaient envie et de réaliser leurs fantasmes. Mais ça, c'est une très bonne chose. On fait l'amour différemment parce que le couple, il évolue, que la génération Z, ils sont aussi beaucoup plus gender fluide, et donc ils ont aussi des sexualités qui sont pas forcément, ils n'ont pas envie de se définir comme forcément hétéro ou homo, et ils ont bien raison de faire des expériences, parce que après tout, peu importe le corps, on tombe amoureux et on aime des personnes avant tout. Donc tout ça, quand on découvre les sextoys, ceci dit, ils existent depuis la préhistoire, donc c'est pas vraiment des découvertes, mais depuis qu'on innove, bien sûr que ça permet d'enrichir la palette, les cosmétiques intimes, les lubrifiants, tous ces gels de massage, les lieux, les love rooms, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses qui permettent effectivement d'enrichir nos sexualités, de s'amuser, parce que ça doit être fun. Donc oui, elles vont continuer à évoluer, mais je pense que ne jamais 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 on ne remplacera deux corps, quel qu'il soit, quels que soient les sexes, dans cette expérience.
Et là, tu parlais de MeToo. C'est vrai que pour les femmes, ça a autorisé beaucoup de choses, et notamment le fait de mieux se connaître. Et je sais, une fois, tu m'avais dit, on ne peut pas demander à son conjoint ou à son compagnon quelque chose si on ne se connaît pas soi-même.
Oui, et ça fait partie aussi, de la charge aussi qu'on posait sur les hommes, de dire, nous, on ne se connaît pas, souvent parce que la masturbation féminine était beaucoup plus taboue et donc moins encouragée que celle des hommes, mais on se connaissait moins et on faisait finalement reporter sur le partenaire le fait de jouir et d'avoir du plaisir. Alors que, en fait, je crois que non. Je crois que la première des démarches est aussi pour savoir demander ce qui nous plaît ou mettre des limites à ce qu'on n'aime pas. On doit se découvrir et découvrir sa propre sexualité, ses zones érogènes. On a tous les corps. Alors bien sûr, oui, on a un sexe, mais finalement, la sexualité dépasse ça. Donc, des fois, c'est les seins, des fois, c'est plein d'autres zones érogènes. Il faut aller explorer. Et puis, on ne peut pas être bien avec l'autre si on n'est pas bien dans son corps, si on ne s'estime pas. Enfin, on a un gros travail à faire. Je crois que c'est vraiment important. Et depuis MeToo, on a repris cette place-là, en fait, de réappropriation de nos corps, de notre plaisir, qui fait qu'on est, on est plus en capacité.
Et il y a il y a quelque chose aussi d'assez récent dans la sexualité féminine, c'est, et je ne sais plus si c'est toi qui me l'avais dit, le clitoris est dans les manuels scolaires seulement depuis 2017.
Oui, c'est ça. La première imagerie complète, finalement, du clitoris avec l'imagerie moderne, c'est 1998, donc c'est assez récent, et 2017 dans les manuels de SVT. Donc maintenant, on en a beaucoup parlé. On a eu, il n'y a que 15 jours, finalement, aussi, une image bien réelle de l'utérus, on a encore beaucoup de progrès à faire. Voilà. Je crois que le clitoris, maintenant, ça y est, il est mieux connu. Je ne sais pas si tout le monde sait s'en servir ou si tout le monde l'a vraiment exploré. Mais en tout cas, on sait maintenant, je pense, pour la plupart, qu'on a cet organe-là magnifique et qui ne sert qu'au plaisir. Et donc, voilà, il faut en faire quelque chose. Par contre, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas, et ça, c'est encore une arnaque que l'on doit à Freud, c'est sur cette distinction, en fait, de l'orgasme clitoridien et de l'orgasme vaginal. Non, on va le répéter au cas où. On a un seul clitoris qui permet l'orgasme avec une stimulation externe ou interne. Et pourquoi je parle d'arnaque? Parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On nous a dit, Freud nous disait, mais le seul orgasme qui vaille pour une femme, l'orgasme mature, c'est celui, bien fort, l'orgasme vaginal, celui qui est vous donné par la pénétration, évidemment, d'un homme. Alors, on voyait bien dans quel schéma on se réinscrivait, ce qui fait que nous, pauvres petites choses, sans les hommes et sans pénétration, on avait des orgasmes qui étaient immatures, infantiles, voire même si on se masturbait, qualifiés d'hystériques. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu en France et dans Europe des femmes qui ont été excisées ou dont on leur a enlevé l'utérus. Ça a été très, très loin. Voilà, on voit bien à quel point le clitoris était mis finalement sous clé parce que c'était beaucoup trop de liberté. Donc, voilà, maintenant qu'on sait ça... il faut explorer le potentiel de cet orgasme de toutes les manières possibles, solo, en duo, comme vous voulez, mais allez-y. Ouais.
Et l'éducation à la sexualité aussi est importante pour les jeunes.
Elle est importante pour tout le monde. Déjà, ça me permet de rappeler que la sexualité, on devrait être en formation continue tout au long de sa vie,
aussi.
Puisque voilà, en fonction des âges, les corps changent et donc on n'a pas envie des mêmes choses. On peut pas forcément les mêmes choses en fonction de l'état dans lequel on est, parce qu'on peut être malade, on peut être plus âgé et avoir de l'arthrose, on peut avoir à un moment donné une perte de libido, une perte d'érection, mais bon, voilà, ça fluctue et faut être OK avec ça. Et bien sûr que chez les plus jeunes, c'est très, très important. Et aussi pour sortir des discours qui sont souvent assez anxiogènes, puisque souvent on les fait rentrer dans la sexualité par les IST, par les risques de grossesse, et que évidemment, bien sûr que cette prévention, elle est complètement indispensable, mais qu'en même temps, il faut aussi leur parler de sentiments, de consentement, d'amour, de caresses, de sensualité, de genre, voilà, pour leur donner toutes les armes possibles, et puis sortir surtout leur dire, voilà, c'est la vie. C'est positif, c'est pas sale, c'est normal, on est des êtres désirants et il faut essayer d'être en sorte le plus heureux possible dans la vie avec ce sujet-là, même si à un moment donné, parce que je suis contre les injonctions, ça peut être de faire le choix de ne pas avoir de sexualité. Voilà.
Et alors il y a quand même un sujet aussi, notamment pour les jeunes. J'entendais que les jeunes commencent la sexualité par la pornographie, donc les premières images apparemment c'est autour de 11 ans. Et par contre, la première relation sexuelle, c'est toujours autour de 17 ans. Donc 17-18 ans. Donc ça veut dire que pendant 6-7 ans, c'est principalement de l'image. Et alors que la relation sexuelle, c'est plutôt charnel et ça peut aussi compliquer visiblement pour nos jeunes.
Alors bien sûr qu'il y a un vrai sujet avec la pornographie, mais je vais faire aussi un pas de côté parce que la pornographie, c'est comme les jeunes, c'est comme la femme, ça n'existe pas en fait. Il y a différentes sortes de pornographie. Et effectivement, la pornographie qu'on dit mainstream, donc en accès gratuit sur différentes plateformes, elle est souvent effectivement violente, elle est dégradante pour les femmes, elle montre des pratiques très choquantes, il y a de la pédocriminalité, enfin voilà, c'est OK, c'est une très mauvaise image de ce que c'est la sexualité. Et ça, plutôt que uniquement de le diaboliser et de se dire comment on va faire pour qu'ils y accèdent pas, ils y arriveront toujours, c'est comment on leur donne les clés de lecture pour leur dire c'est pas la vraie vie, attention. Mais il y a aussi du porno autre, du porno éthique, qu'on pourrait aussi amener dans cette éducation-là. Et je pense notamment à des films d'Erika Lust, par exemple, qui a un très beau film sur la redécouverte de la sexualité après un cancer du sein. Donc, pour une femme, donc c'est un film qui est juste magnifique, qui montre une relation dans un couple juste magique avec un homme voilà qui s'occupe de sa femme, qui la caresse, et beaucoup de tendresse, beaucoup de sensualité, qui est beaucoup plus proche de la vraie sexualité qu'on peut avoir, par exemple. Et ça, on n'en parle pas. Donc je ne veux pas diaboliser moi la pornographie de manière générale. La pornographie mainstream, oui, on doit faire en sorte de protéger nos enfants, oui, mais je crois que la seule interdiction, ça ne suffit pas. Je pense que vraiment il faudrait faire comme dans certains pays du Nord où on montre carrément des séquences où on en parle clairement. D'ailleurs, Erika Lust, elle a une association, elle s'appelle The Porn Conversation. S'il y a des parents qui nous écoutent, on peut trouver les outils en ligne avec différents outils et supports en différents des classes d'âge pour aborder ce sujet-là avec les enfants, pour leur donner les clés de lecture et pas les laisser dans ces regarder ou ces traumas ou ces interrogations ou cette honte. Voilà. Ouais. C'est aussi de notre responsabilité. On peut pas uniquement dire c'est le diable. Oui, c'est mauvais. Oui, ça peut être mauvais, mais ça n'est pas que mauvais et c'est notre responsabilité de les accompagner et de faire cette éducation-là.
Oui, complètement. Par contre, parfois, les parents ne sont pas à l'aise avec ce sujet-là ou alors une tierce personne.
Mais ils ne sont pas à l'aise, mais justement, et c'est tout l'objet de la Sextech, c'est qu'il y a plein d'innovations aujourd'hui, de plateformes, d'applications, il y a plein de ressources numériques. Il y avait des startups d'État qui s'appellent Tu me plais, avec des programmes avec de la gamification. Enfin, aujourd'hui, si on est un parent et qu'on ne sait pas comment se prendre le sujet, on peut toujours envoyer un petit message à son ado en disant « Écoute, voilà, c'est un sujet important, moi je ne suis pas à l'aise pour en parler, mais voilà, j'ai repéré tel site, si tu veux, on achète cette appli. Si tu as besoin d'en parler à quelqu'un, on va trouver... Je comprends qu'on puisse ne pas être à l'aise. Par contre, on peut pas faire l'autruche et il y a des moyens, en fait, de trouver des solutions et de les proposer. Et en tout cas, faut ouvrir la porte du dialogue. Parce qu'il y a rien de pire, en fait, que de pas parler ou de faire ce sujet-là quelque chose de tabou parce que ça peut vous suivre après pendant des années et des années, en fait.
Ouais, tout à fait. Ça peut être l'épanouissement de l'enfant, en fait, qui peut être plus ou moins en jeu, on va dire.
De l'enfant et de l'adulte. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, on a vu des comportements, par exemple, de jeunes hommes qui se disaient « Tiens, je vais aller sur des sites pour draguer et avoir des premières expériences sexuelles avec des femmes plus matures parce que j'ai pas envie de foirer ma première relation sexuelle parce qu'ils avaient cette injonction de performance. » Donc, ils sont dans des scénarios qui doivent pas être ceux-là puisque... On a plutôt envie d'entrer d'une manière beaucoup plus douce et naturelle dans la sexualité avec quelqu'un qu'on rencontre et qui nous plaît. Si on les accompagne pas, ils vont chercher d'autres clés. C'est pas forcément les bons chemins. Et ça, à l'âge adulte, ça peut vous suivre, en fait, un trauma, une mauvaise première expérience en sexualité. Et encore une fois, un adulte qui a un problème dans sa sexualité, ça peut être un adulte dépressif, ça peut aller jusqu'au suicide. C'est quelqu'un qui va être au boulot, moins bien. Enfin, je veux dire, quand on n'est pas bien dans son intimité, c'est comme quand on est malade, on peut pas être bien ailleurs, dans la vie tout court.
Pour revenir justement à Sextech for Good, dis-nous un petit peu, alors je sais que vous faites ça regroupe pas mal de start-up ou d'entreprises dans le domaine, alors si tu peux nous en parler, et puis également des contenus que l'on peut avoir sur Sextech for Good.
Alors c'est vrai que pour les contenus, on a à peu près un webinaire par mois sur différentes thématiques, donc on a fait le handicap et sexualité, la sexualité des seniors, les cosmétiques érotiques, la contraception masculine, voilà, qui est aussi un sujet fort. Voilà, toujours pour dire, voilà, on s'appelle Sextech for Good parce qu'on revendique le fait que l'innovation dans le domaine de la sexualité, ça a un impact sociétal. Et on essaye de le montrer, de le démontrer pour que notre secteur d'activité soit mieux connu et reconnu, et à terme, j'espère un jour mieux aidé, mieux financé, parce que créer des nouveaux produits, des nouveaux toys, mais aussi des nouvelles applis, ça coûte de l'argent. Et actuellement, aujourd'hui, les entrepreneurs de la sextech en France, ils sont vraiment pas suivis et pas aidés. Et puis, effectivement, dans le panel des plus de 40 startups qui sont dans le collectif, on a des gens, voilà, qui font des toys, des cosmétiques, qui font des applications de dating. Il y en a qui font des consultations de sexo en ligne. Il y en a qui ont travaillé comme vulvaïs sur les douleurs vulvaires. Et c'était un sujet qui était longtemps tabou, même y compris des médecins. Donc, c'est vachement bien. Il y a des gens qui font du podcast et de l'audio érotique pour nos imaginaires et nos fantasmes. Et c'est super chouette. Des gens qui font des poupées en matassa, par exemple, pour vraiment de l'éducation à la sexualité pour des personnes plutôt en situation de handicap ou sur des enfants dans des commissariats pour déclarer des agressions. Donc, une très jolie poupée avec plein de détails, c'est magnifique. Vous voyez, c'est très, très large. En fait, on couvre vraiment tous ces prismes-là, de la vente à domicile. Enfin bon, et tous ces gens-là ont des valeurs de sexualité positive, vraiment d'égalité et d'inclusion.
Et par rapport, alors, je sais que tu as un projet en lien avec la sexualité des seniors. Est-ce que tu veux nous en parler ?
Mais oui, j'accompagne une start-up là, qui est dans le collectif aussi, qui s'appelle Always Valentine, qui milite effectivement pour la détabouisation de la sexualité des seniors, parce qu'on n'a pas envie d'en parler, et pourtant, on le rappelle, encore jusqu'à la fin de sa vie, on peut rester un corps désirant, mais c'est pas facile, il y a encore beaucoup de tabous. Le premier tabou, hein, c'est le regard que nous, on porte sur nos aînés, alors qu'encore une fois, ils ont beaucoup à nous apprendre, et ils ont envie de cette sexualité-là, hein. Ceux qui sont en couple, à 52%, ils ont une activité sexuelle, ils ont une sexualité, une intimité, et ils en sont satisfaits à 91%. Quand globalement, la satisfaction est de 40% pour les couples de 40 ans. Donc, on se dit, effectivement, on devrait s'en inspirer. Et puis, il y a Always Valentine, l'idée d'avoir un jour une gamme de produits vraiment adaptés, parce que les sextoys, c'est super, ça peut remplacer, voilà, on le dit encore, et ça peut suppléer, ça peut enrichir la sexualité. Mais voilà, si on a un peu d'arthrose ou un peu de problème de mobilité, des toys avec des boutons tout petits, on va avoir du mal à les utiliser. Donc, il faut réfléchir différemment. Et puis, Always Valentine, ils ont aussi un axe très intéressant qui est de formation. Il y a des formations en ligne, à la fois pour les seniors, parce qu'il y a des moments de vie où c'est plus critique, notamment le passage à la retraite ou le veuvage, et c'est compliqué de se remettre après dans un état de rencontrer quelqu'un et d'avoir une vie sexuelle, et aussi de formation des professionnels de santé et des accompagnants. Parce qu'aujourd'hui, dans les EHPAD, on n'en parle pas assez, mais il y a une recrudescence des IST, il y a des gens qui ont des activités sexuelles, il y a des femmes qui se masturbent avec un peu tout et n'importe quoi, et qui se blessent parce qu'elles n'ont pas accès au sextoy. Et donc, il y a une vraie réflexion à avoir pour comment on fait pour considérer ce sujet de la sexualité des seniors, notamment dans les institutions. Parce que, là encore, des gens qui peuvent s'aimer comme ils ont envie de s'aimer, quelle que soit la manière de le faire, c'est des gens qui vont mieux, c'est des gens qui sont plus heureux, c'est des gens qui mangent mieux, c'est des gens qui sont moins déprimés, donc qui prennent moins de médocs. Et je trouve ça, enfin, normalement, un EHPAD et ses résidences, ça doit être des lieux de vie, et donc d'envie, et pas des lieux de privation de ce droit qui est quand même qui est pour moi un droit fondamental.
Ouais, ça paraît fou en fait que ces sujets soient si tabous que ça.
Mais en fait, on en revient à un sujet. Il y a beaucoup de papiers qui sortent en ce moment là-dessus sur le fait que le plaisir est compliqué. Le plaisir n'est pas un sujet qui est valorisé. C'est-à-dire que, et quand on est vieux dans un EHPAD, on est un vieux dans un EHPAD, on n'est plus un homme ou une femme, on n'est plus un corps désirant. Et en fait, on va s'occuper de vous pour vous laver, pour vous donner à manger. Mais cette notion de plaisir va paraître superflu beaucoup de soignants. C'est pareil quand on a eu un cancer, c'est pareil quand on a l'endométriose, cette dimension du plaisir, elle est rarement prise en compte par les soignants en disant oui, on s'occupe déjà de votre maladie. Bon, voilà, la sexualité, le plaisir, voilà, ça va être quelque chose. Bon, c'est à part, c'est pas essentiel. Si, parce que par exemple, si on est une jeune femme qui a de l'endométriose et qu'on a des douleurs et qu'on n'ose pas en parler, qu'on reste avec ça, potentiellement on reste célibataire parce qu'on en a marre de dire non et de devoir expliquer à son conjoint qu'on a mal et qu'on peut pas avoir de rapport sexuel pénétratif. Et puis finalement, on va décider un jour de plus du tout avoir de relation amoureuse parce que ça sera plus simple et c'est triste. Et donc, bien sûr, on retombe sur des problèmes de santé mentale. Donc, non, vraiment, la sexualité est un sujet important. Et donc, oui, il y a des choses qui se passent. Et je trouve que la sexualité des seniors est un très, très beau sujet à accompagner, auquel s'inspirer. Donc, je pense aussi que ça nous permet de vieillir en étant beaucoup plus optimiste.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, juste, bon, j'y pensais, senior, c'est quel âge ?
C'est une très bonne question. En fait, moi, je dis, c'est à chacun de définir. Alors, ça dépend. Tu vois, dans les entreprises, t'es senior, finalement, à 45 ou 50 ans. Pour l'INSEE, je crois que c'est 60 ans. Et pour les médecins, quand on les interroge plutôt sur la sexo, ça va plutôt être de 70. Donc, je pense qu'en fait, voilà, il y a des gens qui, d'ailleurs, qui n'ont pas envie qu'on parle d'eux en termes de senior. Ils ont envie de se revendiquer comme vieux. Alors que bon, nous, peut-être vieux, qu'on va avoir un a priori beaucoup plus négatif sur ce terme-là, sur ce mot-là. Pour faire simple, l'idée, c'est de retenir que quand on est à la retraite de sa vie professionnelle, on n'est quand même pas à la retraite de sa sexualité, de sa vie amoureuse, et qu'il ne faut pas le vivre comme ça. Comme on a été obligé de déconstruire beaucoup de choses sur les femmes, et notamment les femmes de 50 ans à la ménopause, où ça y est, on commence à dire, ah oui, non, ménopausée et pas périmée, et que chouette, à 50 ans, non, c'est le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle liberté, d'une nouvelle aussi sexualité, c'est certain, et de le voir de manière joyeuse. Et je pense que pour les jeunes femmes, c'est aussi important de se dire, de toute façon, on va toutes passer par là, comme si normalement, globalement, si on a de la chance, on va tous devenir vieux, parce que ça voudrait dire que on a eu des points de vie supplémentaires. Et des jours de vie supplémentaires, donc il faut plutôt le voir comme ça, et que on va pouvoir continuer d'en profiter et d'en tirer une jouissance. Donc je trouve ça génial.
Et quand tu disais justement les seniors sont plus heureux dans leur sexualité, plus de plaisir, ça joue pas le fait que justement la femme en fait elle continue sa sexualité c'est toute la vie. Toute sa vie, même si elle ne peut pas procréer toute sa vie, elle peut avoir une vie sexuelle épanouie toute sa vie. Alors si on reste bien sûr sur cette notion encore de pénétration, c'est plus compliqué pour les hommes. Donc est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'à un moment, les couples se rejoignent aussi ?
C'est-à-dire qu'ils déconstruisent ce qu'on devrait tous déconstruire sur cette... et c'est notre combat de modèle de sexualité patriarcale et hétéronormée et pénétrative. C'est-à-dire que il y a un moment donné, oui, quand on bande moins, on est obligé de réfléchir autrement. Et on se rend compte que facette, ça peut être aussi complètement beau et intéressant et riche et plaisant. Oui, et l'orgasme, quand on en a un, c'est le Graal. Mais en fait, ce qui compte, encore une fois, c'est le plaisir. Parce qu'on peut prendre énormément de plaisir à un rapport sexuel et une intimité ou une après-midi passée au lit avec quelqu'un sans forcément qu'il y ait un orgasme. Donc, effectivement, ce moment-là, ils sont obligés de s'ouvrir à autre chose. Et puis, bah, nous, les femmes, on est toujours... on a quand même un des problèmes de stress vaginal. On a d'autres problèmes. Peut-être ce regard sur le corps qui change, les rides et des choses comme ça. Mais la ménopause, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont à dealer ça d'un point de vue, justement... intellectuel, mais peut-être que on gagne, nous, la différence, c'est qu'on gagne en liberté. C'est-à-dire, effectivement, on n'a plus de charges contraceptives. En général, à ce moment-là, les enfants sont grands, ils sont partis de la maison. On peut s'occuper de nous. Et donc, cette liberté-là fait qu'en général, on jouit bien mieux après 50 ans. Youpi, je confirme. Et que bah, les hommes, à ce moment-là, sont obligés de réfléchir différemment et que ça donne effectivement l'opportunité pour les seniors d'avoir une sexualité, encore une fois, différente, mais beaucoup plus riche, beaucoup plus en douceur, beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus créative, c'est ce qu'ils nous disent, beaucoup plus de ramener du fun et de la discussion et de la complicité. Et c'était très important pour eux dans les sondages, le rire et la complicité, et cette intimité. Non, c'est très chouette.
Ouais, complètement. Là, il y a beaucoup d'espoir.
Mais il faut. Ouais.
Alors, une dernière question, Christelle, et c'est toi qui me l'as dit, c'est, tu m'as dit un jour, un couple, c'est deux célibataires heureux, c'est-à-dire ?
Comme je dis qu'il faut réinventer les sexualités, on l'a bien compris, je pense qu'il faut réinventer l'amour et réinventer le couple, toujours dans cette destruction du patriarcat, parce que on était longtemps dans ce modèle de l'amour très romantique, où je suis une pauvre cendrillon, et un jour, un homme va arriver sur un cheval blanc avec une baguette magique, et ma vie va être juste magique. Mais non. Ça ne marche pas comme ça. Et tant qu'on attend de l'autre, comme d'attendre de l'autre un orgasme ou d'attendre de l'autre en fait qui transforme votre vie et qui la rende joyeuse et qui trouve votre bonheur, en fait, ça peut pas marcher. En fait, ça doit venir de nous. On doit découvrir son corps pour découvrir son plaisir. Et je pense qu'on doit apprendre à être seul avant de pouvoir être heureux à deux. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, un couple, oui, c'est deux célibataires heureux. C'est important, qui n'ont pas besoin de compenser ou d'être dans l'étayage de l'autre et qui sont vraiment dans une recherche d'amour. J'aime bien cette idée de Coral Herrera Gomez qui est laboratoire de l'amour et qui parle de l'amour compagnon et donc cet amour où on avance ensemble, on traverse les épreuves, on se découvre, on se renforce, mais on fait pas peser sur l'autre en fait la réparation de nos failles, de nos peurs. Je dis ça, c'est très complexe à faire parce que il faut apprendre à se connaître et des fois ça peut être douloureux, on a tous des traumas, on a tous des failles, mais je pense que c'est intéressant et donc je pense qu'on doit vraiment tout réinventer, mais on voit bien que tout va de pair, c'est-à-dire cette idée d'être quelqu'un et d'être un être complètement autonome sur tous les sujets, de prendre les bonnes décisions pour soi dans une entière liberté. Et pour le faire, en fait, c'est comme on dit, le consentement éclairé et enthousiaste. Mais pour être dans le consentement éclairé et enthousiaste, ça veut dire qu'il faut avoir réfléchi, il faut s'être informé. Et donc, j'invite les gens à réfléchir, en fait, à leur sexualité, ce qu'elle dit d'eux, d'eux-mêmes, du respect qu'ils ont, de l'estime qu'ils ont, de la confiance qu'ils ont, de la richesse, enfin, de se dire, est-ce que il y a pas des choses, peut-être, qui pourraient me rendre encore plus heureux? On a encore une fois une source là. Et pour l'amour, je pense que c'est pareil. Aujourd'hui, je pense que l'amour nous élève pour être globalement en situation de domination, d'opposition, et on nous élève pour être malheureux ensemble. Et je pense qu'il est temps qu'on nous apprenne à être heureux ensemble.
Ouais, et comme tu dis avec le sex empowerment, là, c'est une belle démonstration. Ouais.
Un sexe qui libère la femme et l'homme.
Carrément. Carrément. Eh bien, écoute, un grand merci, Christelle, pour cet échange vraiment passionnant, très riche, donc sur ce sujet aussi délicat de la sexualité, pour tout ce que tu portes pour allier innovation, entrepreneuriat, féminisme, sexualité positive. Est-ce que tu souhaiterais rajouter un dernier point ?
Non, écoute, je vais juste te remercier de profiter de cet événement-là pour mettre Sex Tech for Good en avant, parce que tu l'as bien compris, on cumule beaucoup de tabous et c'est vrai qu'on n'a pas toujours de facilité à mettre en lumière ce qu'on porte et nos entrepreneurs. Donc un grand merci parce qu'ils font tous un boulot formidable en montant des boîtes dans un contexte quand même assez hostile par rapport au sujet qu'on porte. Et donc ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de visibilité. Et donc voilà, d'ailleurs, je vais encourager tous les auditeurs et les auditrices à les suivre, à nous suivre sur les réseaux et puis se faire relais de ces messages qui sont quand même globalement des messages d'optimisme.
Tout à fait. Et justement, alors, allez sur le site web.
Sextechforgood.org. Et puis, on est à peu près sur tous les réseaux, notamment Insta, LinkedIn pour la partie pro. Et puis, suivre nos webinaires aussi, parce que je trouve que c'est intéressant toujours de faire ce pas de côté, de se prendre ces temps de réflexion. Et même des fois, si on n'est pas d'accord, je trouve qu'au contraire, c'est quand on n'est pas d'accord que ça résonne et qu'on se pose la question de pourquoi. Pourquoi ça m'interroge, pourquoi ça m'interpelle. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant.
C'est vrai. Eh bien, je te souhaite bon vent, ainsi qu'à tous les entrepreneurs de la Sextech for Good, et qui sait, peut-être pour un prochain épisode d'ici deux ans et demi aussi.
Avec plaisir.
C'est un sujet passionnant. Et voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter aussi le site de podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations au travers d'excellents podcasts également. Et c'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association de votre choix. Peut-être, pourquoi pas, Sextech for Good. Il y a la possibilité
sur le site. Oui, sur Hello Asso. Oui.
Ah bah alors, fabuleux. Et là aussi, tout se passe aussi sur podcast.org. On compte sur vous et merci pour votre fidélité à ce podcast. Je vous dis à dans deux semaines et je vous dis Kenavo.
Au revoir.